Les séminaires du Collège de France.
Et maintenant, pour le séminaire qui suit le cours, j'ai le grand plaisir d'accueillir Pascal Ludwig, qui est un philosophe de l'esprit, qui a été formé initialement en philosophie du langage, qui est surtout philosophe de l'esprit, mais qui touche aussi à la philosophie de la psychologie, puisqu'il a écrit pas longtemps un article sur Milgram. Mais son intérêt principal porte sur la conscience et les concepts phénoménaux, des choses comme ça. Et je pense qu'il va nous en parler aujourd'hui, par son titre, c'est « Le langage de la perception et l'expérience consciente ». Et il enseigne à Sorbonne Université.
Pascal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. D'abord, je veux dire que c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Je te remercie très vivement de m'avoir invité. Et un honneur aussi. Alors, je vais aborder aujourd'hui des questions qui sont un petit peu différentes de celles qui s'écartent un petit peu de la thématique principale du cours de François Recanati. Mais il y a quand même, à mon avis, des relations et j'espère que du coup cette présentation sera pertinente aussi pour le cours. Je dois dire que j'ai beaucoup de sympathie pour l'approche générale de François, que je pense très plausible, en fait. Donc ça fait plaisir d'entendre un cours de philosophie qui pourrait dire des choses véridiques, en fait. C'est toujours agréable. C'est pas toujours le cas en philosophie. Donc, alors, ce dont je vais parler, c'est ce qu'on appelle la conception relationnelle de l'expérience consciente. Alors, je dois dire tout de suite que, ma présentation, le but de ma présentation est relativement modeste. Je ne vais pas essayer à proprement parler de défendre cette conception. Donc, je vais quand même la décrire, hein, bien sûr. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ce que je voudrais suggérer, c'est que cette manière de concevoir l'expérience consciente est peut-être notre manière naïve de la concevoir. Et alors, évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur la conscience. Comme François le disait, c'est, un domaine qui m'intéresse particulièrement. Il est particulièrement difficile d'arriver à définir ce que les philosophes appellent la conscience phénoménale ou la phénoménologie. Donc, on emploie parfois, pour essayer de définir cette expression en philosophie, l'expression en anglais « what it's like », qui est très difficile à traduire en français. On traduit en français parfois l'effet que ça fait, mais c'est une traduction qui n'est pas littérale du tout, qui ne capture pas vraiment le sens, en fait, en anglais. L'idée qu'on pourrait définir une notion claire à partir de cette expression anglaise, à mon avis, est très problématique. Il peut être intéressant, étant donné que par ailleurs, il y a vraiment énormément de recherches, pas simplement en philosophie, mais également en neurosciences, en sciences cognitives, sur la conscience, donc phénoménale. Il pourrait être intéressant d'essayer d'aborder cette question à partir de la manière dont nous concevons naïvement, en quelque sorte, l'expérience. La conception relationnelle de l'expérience, c'est une conception qui, justement, en tout cas, prétend ou essaye de s'appuyer sur notre conception naïve. L'idée est la suivante. L'idée est que certaines relations entre le sujet percevant et l'environnement jouent un rôle absolument essentiel pour comprendre ce qu'est la perception. Et en particulier que les entités qui sont réellement présentes dans notre environnement, donc vraiment les choses concrètes, hein, les objets matériels, mais ça peut être aussi des objets immatériels comme des trous par exemple, des ondes, des choses comme ça, qui sont présentes dans l'environnement, contribuent de manière essentielle à l'explication du rôle cognitif et du rôle dans la connaissance en général, dans la formation des croyances, dans la formation des connaissances, qu'ont nos expériences conscientes, et donc qu'elles ont dans notre vie cognitive. Alors, de manière peut-être un petit peu plus ambitieuse, je formule cette conception relationnelle d'une manière un petit peu prudente, vous verrez pourquoi dans la suite de l'exposé, mais de manière peut-être plus ambitieuse, l'idée est que l'environnement perçu contribue à la phénoménologie de nos expériences sensorielles, et ce, de manière essentielle. L'idée, c'est que c'est parce qu'un sujet est relié à des objets qui sont présents dans l'environnement et qu'il perçoit consciemment, qu'il a une expérience qui a une certaine phénoménologie et que ces objets et leurs propriétés perceptibles constituent d'une certaine manière cette phénoménologie. Donc en fait, alors là c'est peut-être le point de contact avec le cours de François, parce que c'est une conception de l'expérience qui est assez radicalement externaliste. Hein, vous voyez que l'environnement joue un rôle absolument central dans cette conception de la conscience, ce qui n'est pas le cas pour toutes les conceptions de la conscience, hein, notamment, vous voyez, si, dans notre tradition, Descartes, par exemple, c'est un philosophe qui est souvent décrit comme défendant une conception de l'expérience qui la coupe d'une certaine manière du contexte ou de l'environnement. L'idée, c'est que, après tout, ce qui est essentiel pour notre expérience, c'est juste ce qui se passe dans notre esprit, ce n'est pas les relations avec l'environnement. Donc, d'après l'approche, d'après la conception relationnelle, disons que cette idée de Descartes n'est pas correcte. Il faut vraiment tenir compte des relations avec l'environnement. Alors, juste une citation... Parce que je voulais dire un petit mot quand même sur l'historique de cette conception relationnelle. En fait, c'est une conception qui est assez ancienne, probablement, dans l'histoire de la philosophie. Putnam, par exemple, l'attribue à Aristote. Donc, alors, c'est discuté hein, par les historiens. Il y a des articles savants qui discutent la question de savoir si Aristote défendait réellement cette conception. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, à la fois dans la philosophie antique et... en fait, probablement jusqu'à Descartes, cette intuition d'après laquelle les objets interviennent de manière essentielle dans la perception était assez largement partagée. Au XXe siècle, elle a été aussi défendue à différentes époques. Elle est réapparue, disons, en philosophie analytique très fortement. D'abord, sous la plume d'Austin, c'est probablement le premier philosophe qui a défendu ce genre d'approche, John Austin, et à la fin du XXe siècle, je pense peut-être le philosophe le plus influent, c'est Mike Martin, et ensuite cette approche a été défendue par John Campbell, par Bill Brewer, par un certain nombre d'autres philosophes, Charles Travis également. Donc un certain nombre d'autres philosophes. Là, je vous donne une citation de Campbell parce qu'elle est particulièrement claire. Elle est très très souvent citée. Campbell qui dit que selon l'approche relationnelle, le caractère phénoménal de votre expérience, lorsque vous regardez autour de la pièce, est constitué par finalement la scène elle-même, the actual layout of the room itself, avec tous les objets particuliers qui y sont contenus, ainsi que leurs propriétés intrinsèques, telles que leur couleur, leur forme, et peut-être aussi les relations que ces objets entretiennent les uns avec les autres. Alors, on pourrait discuter de savoir ce qu'il faut intégrer ici lorsqu'on parle des propriétés des objets. Est-ce que c'est simplement des propriétés intrinsèques, comme la forme ou la couleur ? Ou est-ce qu'il faut aussi intégrer d'autres propriétés, peut-être relationnelles, à mon avis, ce serait probablement nécessaire, peut-être des ombres, par exemple, vous voyez, ça c'est pas certain, ou des trous, lorsqu'on peut percevoir des ombres ou des trous, probablement que dans une approche relationnelle, il faut intégrer ces entités pour décrire correctement l'expérience, mais ce ne sont pas des entités qu'on peut décrire uniquement à partir des propriétés intrinsèques réellement des objets, mais... je vais pas lire la suite du texte, je vais me contenter de cette partie de la citation. Alors, je vais pas rentrer non plus tellement dans les détails des motivations philosophiques de cette approche relationnelle, mais sachez qu'il y a beaucoup de motivations différentes, notamment des motivations qui sont épistémologiques, donc qui proviennent plutôt de la théorie de la connaissance. Et ça, c'est ce qu'on appelle parfois l'approche disjonctive de la perception. Alors, je m'excuse pour le jargon, mais en fait, l'idée est relativement simple, même si le mot disjonctif ici peut paraître un petit peu bizarre ou un petit peu technique. Mais l'idée, c'est que la perception consciente nous dévoile la réalité. La perception consciente, vraiment, nous donne des raisons, mais des raisons... complètement probante, ce qu'on appelle en philosophie factive, de croire. Et à cet égard, cette approche disjonctive de la perception... Alors, pourquoi disjonctive ? Parce que, du coup, les philosophes qui défendent ce genre d'approche ont tendance à considérer qu'il faut vraiment distinguer la perception consciente d'autres formes d'expérience qui ne sont pas véridiques, comme les hallucinations ou les illusions, qui sont des choses dont je vais du coup pas mal parler dans cette présentation. Et que donc, il n'y aurait pas une sorte de concept général d'expérience qui s'appliquerait aussi bien aux illusions et aux hallucinations d'un côté et à la perception véridique de l'autre, mais que le concept le plus fondamental, c'est le concept d'expérience de perception véridique. Donc, d'où l'idée d'approche disjonctive, parce que l'idée, c'est qu'il n'y a pas un genre commun, en quelque sorte. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que je vais dont je vais tellement parler, en fait. Hein. Mais simplement, je voulais quand même dire un mot des liens entre l'approche disjonctive de la perception et la thèse relationnelle, parce que ce sont quand même des thèses qui sont différentes, hein, parce que l'approche disjonctive, bah, essentiellement, ce qu'elle dit, c'est que la perception nous donne des raisons factives de croire, qu'elle nous révèle vraiment ce qui est le cas dans le monde. Et c'est pas comme ça que j'ai défini évidemment la thèse relationnelle. Donc, quelles sont les relations entre ces deux approches ? Une première chose qu'il faut dire, c'est que la conception relationnelle implique très naturellement l'approche disjonctive. Si vous adhérez à l'approche relationnelle, parce que si vous considérez que les objets réels d'une expérience véridique et d'une expérience non véridique ne sont pas les mêmes, y compris lorsqu'on ne peut pas distinguer ces expériences de l'intérieur de façon introspective, eh bien, vous pouvez être naturellement conduit à adhérer à l'approche disjonctive. Si la nature de l'expérience dépend de la nature des objets perçus, qui sont réellement présents dans l'environnement, et uniquement de cela, les expériences véridiques et non véridiques n'ont a priori pas la même nature. En tout cas, c'est naturel de le penser. Et donc, vous voyez que la conception relationnelle implique très naturellement l'approche disjonctive. Est-ce que l'approche disjonctive implique nécessairement, à l'inverse, la conception relationnelle? Alors là, j'emploie le terme réalisme naïf. On emploie parfois le mot réalisme naïf également pour désigner l'approche relationnelle de l'expérience. Alors, logiquement, non. L'approche disjonctive est indépendante logiquement du réalisme naïf. Néanmoins, le réalisme naïf propose une explication intéressante de la nature des raisons factives dont la thèse disjonctive propose l'existence. Donc il y a quand même une relation, même si ce n'est pas une relation d'application logique. Dans le cadre de l'approche relationnelle, donc, ou encore une fois du réalisme naïf, avoir une raison factive de croire que P, c'est percevoir consciemment le fait que P. Et cela suppose d'être dans une certaine relation avec un environnement dans lequel ce fait existe, en fait. Donc l'idée... Alors, la métaphore qu'emploie notamment John Campbell, alors c'est une métaphore, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais il parle de dévoilement ou de révélation des faits par l'expérience consciente. Il considère que la perception comme un dévoilement de la réalité. Alors, même si c'est une métaphore, je trouve que c'est quand même très intéressant parce que, disons, c'est quand même voilà, une conception de la conscience qui est relativement claire, finalement. L'idée, c'est que la conscience, c'est ce qui nous met, qui crée finalement notre contact peut-être le plus épistémique, le plus fondamental avec le monde extérieur. Et qu'à cet égard, l'expérience repose aussi sur le monde extérieur parce qu'elle présuppose des relations avec lui. Bon, là aussi, hein, je pense que c'est quelque chose qui est assez compatible avec le genre d'approche, en tout cas, que François Recanati propose, qu'il décrit par ailleurs dans son cours. Ce qui ne veut pas dire que ça soit sa position du tout, mais c'est compatible, en tout cas, avec sa position. Alors, une chose que je voudrais remarquer, là, ce que je vais dire, disons, c'est plus ma propre position, que nécessairement quelque chose qui serait largement admis dans la littérature. Disons, il y a d'autres philosophes qui partagent ma position, mais c'est que cette conception relationnelle n'exclut pas que faire référence à des représentations mentales soit essentielle pour expliquer ce qu'est la conscience. ce n'est pas incompatible avec une approche représentationnelle de l'expérience. Alors, ce que je dis pourrait sembler polémique, parce que certains auteurs comme Campbell ont vraiment tendance à opposer l'approche relationnelle et ce que lui appelle l'approche représentationnelle. Alors, en un certain sens, il a raison. Parce qu'il a raison si ce à quoi on pense lorsqu'on pense aux représentations mentales et à l'approche représentationnelle de la conscience, si ce à quoi on pense, c'est une certaine théorie philosophique assez ambitieuse, en fait, de ce qu'est la phénoménologie, d'après laquelle la phénoménologie s'expliquerait par des représentations mentales, et d'après laquelle ces représentations mentales suffiraient à expliquer ce qu'est la phénoménologie. Donc l'idée, c'est que lorsqu'on a une expérience consciente de rouge, il suffit, pour expliquer cette expérience consciente de rouge, de faire référence à un contenu. À cet égard, on pourrait dire, vous voyez, que l'approche représentationnelle, on pourrait aussi faire appel à une métaphore pour la décrire, qui serait peut-être la métaphore du langage des sens ou du langage de la perception. Bon, d'ailleurs, dans le titre de mon exposé, le langage de la perception, c'est à comprendre en deux sens. C'est-à-dire, il y a les mots qu'on emploie pour décrire l'expérience perceptive, et on va en parler beaucoup. Mais il y a aussi cette question de savoir si cette métaphore du langage des sens, s'il faut réellement s'appuyer sur elle ou pas. Et les auteurs qui défendent l'approche relationnelle se méfient plutôt de cette métaphore. Ils s'en méfient, c'est-à-dire qu'ils considèrent que les caractéristiques de notre expérience, que ce qui constitue notre expérience, ce n'est pas un objet intentionnel, ce n'est pas un contenu intentionnel, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait comparer à une proposition, ce qu'on exprime par des mots. Donc, les auteurs comme Campbell, Brewer, Trevis, alors Trevis, par exemple, a même écrit un article, Charles Trevis, un article magnifique, dont le titre est « Le silence des sens ». Le silence des sens, bon, il défend l'approche relationnelle. Pourquoi le silence des sens? Bon, l'idée, c'est qu'il faut rejeter cette métaphore. Mais on peut rejeter cette métaphore, on peut rejeter cette conception très ambitieuse, donc ce qu'on appelle en philosophie de la perception l'intentionnalisme, cette approche très ambitieuse de la phénoménologie, on peut la rejeter tout en considérant qu'il est essentiel de faire appel à des représentations mentales pour décrire la perception. Les deux choses sont parfaitement compatibles. Si les relations avec l'environnement perçu sont essentielles à la phénoménologie, celle-ci ne peut pas dépendre uniquement de contenu de représentation mentale. Et à cet égard, il y a bien une incompatibilité entre l'approche relationnelle et certaines, encore une fois, approches intentionnalistes qui diraient la phénoménologie ne dépend que du contenu de représentation mentale et de rien d'autre. Ainsi, selon l'approche relationnelle, une perception véridique d'un objet rouge diffère qualitativement d'une hallucination d'un objet rouge, car dans le second cas, la couleur rouge n'est pas instanciée dans la scène perçue, mais ça n'exclut pas que les états sensoriels aient des propriétés représentationnelles. Là, il n'y a pas d'incompatibilité logique entre la thèse relationnelle et le représentationnalisme en ce sens-là. Alors j'espère que c'est clair, parce que c'est vrai que c'est un point qui est peut-être un petit peu subtil, mais c'est un point qui me paraît très important. Alors peut-être un dernier mot qu'il faudrait que je dise sur à propos de la thèse relationnelle, de l'approche relationnelle, c'est qu'une chose qui peut paraître peut-être un peu contre-intuitive, en tout cas lorsqu'on a été formé à partir de la lecture de Descartes, des méditations métaphysiques, etc., ce qui peut paraître un petit peu contre-intuitif dans l'approche relationnelle, c'est que dans cette approche, il y a des différences très importantes entre des expériences conscientes, mais qui ne sont pas accessibles à l'introspection. Notamment la différence, enfin pas nécessairement, je devrais dire plutôt accessible à l'introspection, notamment la différence entre une illusion, une hallucination d'un côté et une expérience véridique. On est tous d'accord qu'on peut tout à fait être trompé par une illusion. Et on peut prendre une illusion, par exemple dans le cas d'un trompe-l'œil, on peut prendre une illusion pour une expérience véridique. Donc du point de vue de la première personne, du point de vue de l'introspection, il y a des situations dans lesquelles on n'arrive pas à distinguer très très bien les deux. D'après les tenants de l'approche relationnelle, ce n'est pas une raison pour considérer que ces états mentaux appartiennent exactement au même type, au même genre. Alors, peut-être que c'est contre-intuitif, mais j'aurais envie de dire que c'est pourtant relativement plausible, parce que le fait qu'il soit difficile de distinguer les états mentaux, le fait que l'introspection humaine ait des limites, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt très bien établi en psychologie. Donc en fait, vous voyez, les philosophes qui défendent la thèse relationnelle diraient, bon, il n'y a pas de raison de s'appuyer plus, beaucoup plus sur l'introspection quand on s'intéresse à la conscience que quand on s'intéresse à d'autres phénomènes cognitifs. Et donc il y a des choses qui, du point de vue de l'introspection, nous semblent très similaires et puis qui en réalité jouent des rôles cognitifs et épistémiques très très différents. Alors, donc, je vous rappelle que mon objectif aujourd'hui, c'est pas tant de défendre cette approche relationnelle que d'essayer de suggérer qu'elle pourrait correspondre à notre conception naïve, donc pré-philosophique, de ce qu'est l'expérience consciente, et que peut-être c'est de ça qu'il faudrait partir pour comprendre ce qu'est la conscience phénoménale. Et à cet égard, il y a plusieurs choses qu'on peut regarder. On peut regarder la littérature empirique sur la psychologie naïve. Il y a aujourd'hui une riche littérature qui est issue des travaux des gens qui font de la philosophie expérimentale sur la psychologie naïve de la conscience phénoménale. Donc ça, mais je ne vais pas en parler du tout aujourd'hui. Mais il y a autre chose. Et donc on pourrait regarder si effectivement ce que nous disent ces travaux est compatible avec l'approche relationnelle ou pas. Mais il y a une autre source qui est intéressante, me semble-t-il, c'est le langage et le vocabulaire qu'on emploie pour décrire l'expérience. Est-ce que lorsqu'on regarde le langage notre usage du vocabulaire de la perception, est-ce que cet usage est compatible avec l'approche relationnelle? Ma thèse, c'est que oui. Alors d'ailleurs, à cet égard, un dernier mot avant de passer à la suite. L'approche relationnelle en France a été défendue par plusieurs enseignants qui ont enseigné ici, notamment Maurice Merleau-Ponty. Alors, c'est la théorie de la perception de Merleau-Ponty est assez complexe, mais quand même, il y a vraiment beaucoup de ressemblances avec l'approche relationnelle à bien des égards. Et Jacques Bouvresse également, personnellement, en tout cas, c'est comme ça que j'ai connu cette approche de la perception. Jacques Bouvresse a été un des premiers, je pense, à la défendre. Alors, donc, quelles sont les constructions qu'on emploie pour décrire nos expériences perceptives en français ? D'abord, il y a des constructions avec un complément nominal ou infinitif, comme Zineb voit Marie, Zineb voit la lente chute de Marie, Zineb voit l'ombre projetée par Marie, Zineb voit la rougeur du visage de Marie. J'ai pris volontairement des compléments qui décrivent toutes sortes d'entités, pas nécessairement matérielles. La lente chute de Marie, c'est un événement, l'ombre projetée par Marie, bon, une entité un petit peu problématique, la rougeur du visage de Marie, une propriété instanciée par le visage de Marie à un certain moment. Ces constructions décrivent des événements de perception, eux-mêmes constitués par l'occurrence d'une relation entre l'organisme qui voit et l'entité qui est vue. Et vous voyez que le fait qu'on emploie ce genre d'expression pour décrire nos expériences semble aller effectivement dans le sens de l'approche relationnelle, parce qu'effectivement, c'est comme ça, semble-t-il, qu'on décrit nos expériences. On peut considérer que les verbes de cette classe décrivent, donc les verbes de perception. Alors, je vais quand même beaucoup prendre mes exemples dans la perception visuelle, mais c'est censé quand même s'appliquer à toutes les formes de perception. Les verbes de cette classe décrivent la perception réelle d'une certaine entité. Alors, c'est un point qu'on discutera. Est-ce que lorsqu'on dit que Zineb voit Marie, ça implique l'existence de Marie dans la situation de perception? Alors, je vais soutenir que oui, que c'est l'explication en tout cas la meilleure des données linguistiques, et que donc ça va bien dans le sens de l'approche relationnelle. Quelques remarques à propos de ces constructions. L'existence d'une telle relation visuelle rend possible la formation de jugements de croyances, mais ne l'implique pas forcément. Par exemple, on peut dire que Zineb voit Marie danser, mais qu'elle ne pense pas que c'est Marie ni que la personne qu'elle voit danse. Donc ça, c'est un point qui est important, qui permet de voir que lorsqu'on décrit nos expériences, on distingue bien ces expériences de croyance ou de jugement. Elle implique ce que certains auteurs comme Barwise et Perry ont appelé un principe de véridicité. Si B voit phi, alors phi. Bon, dans la suite de cette présentation, on s'interrogera hein, sur ce principe de véridicité, mais en tout cas, dans les exemples que je donne là, si Zineb voit Marie danser, il semble que ça implique que Marie est en train de danser. Encore une fois, même si Zineb ne l'a pas reconnue. Et par ailleurs, ça implique également l'existence d'une expérience consciente. Ça, c'est important. Si Zineb voit Marie, alors elle est une expérience consciente de Marie. Je ne veux pas, à cet égard, exclure qu'on puisse utiliser le vocabulaire de la perception pour décrire des perceptions qui seraient inconscientes. Je suis conscient qu'évidemment, il y a tout un débat à ce sujet en philosophie de la psychologie, en philosophie des neurosciences, etc. Mais disons que j'aurais tendance à penser que c'est un emploi un petit peu non littéral et technique du vocabulaire de la perception, qui correspond pas vraiment à son usage courant. Je pense que dans l'usage courant, lorsqu'on parle de perception, on parle vraiment d'expérience consciente. Alors, par ailleurs, un point qu'il faut souligner, c'est que le vocabulaire de la perception, donc on peut construire ces verbes également avec des compléments propositionnels, dans ce qu'on appelle parfois des rapports de perception, qui ressemblent beaucoup à des rapports d'attitude propositionnelle. Ces rapports semblent avoir pour fonction de décrire des faits perçus. Ils sont factifs, donc ça veut dire qu'ils impliquent la vérité de la proposition qui est utilisée pour construire le rapport. Par exemple, si vous dites « Zineb voit que Marie escalade une montagne », ça implique que Marie escalade une montagne. Par ailleurs, ici, par contre, ces rapports de perception impliquent la possession de concepts et l'utilisation de concepts. Ici, le fait, si l'on dit que Marie voit que Zineb voit que Marie escalade une montagne, ça implique que Zineb a bien reconnu Marie, qu'elle a appliqué a priori un concept de Marie. Zineb en tant que Marie chante, ça implique que Marie chante. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on parle c'est pour ça qu'on dit que ces constructions sont factives, parce que les propositions, encore une fois, utilisées dans les constructions sont vraies à partir du moment où on emploie ces constructions. Une question qu'on peut se poser, c'est quelle est la relation entre voir que P et savoir que P. Alors, il y a des débats sur cette question chez les philosophes de la connaissance. Ces rapports sont parfois considérés comme décrivant des connaissances perceptives. Dretsky a soutenu cette position, Barwise et Perry, également Williamson, donc un certain nombre d'auteurs éminents. Néanmoins, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a des situations qui sont un petit peu à cet égard. Alors, c'est un peu subtil, hein. C'est toujours les situations... En philosophie, on cherche parfois à décrire des contre-exemples qui sont parfois un peu subtils, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas significatifs. Et d'autres philosophes, John McDowell et Duncan Pritchard, principalement, je crois, c'est à eux en tout cas que j'emprunte ces contre-exemples, on décrit des situations qui semblent constituer des contre-exemples à cette thèse de Dretsky, de Barwise et Perry, de Williamson. Supposons, par exemple, que Zineb observe la chemise de Marie, que cette chemise lui semble bien verte, qu'elle le soit en fait vraiment. Elle est vraiment verte. Donc Zineb n'est pas victime d'une illusion. Mais par ailleurs, que Zineb soit convaincu d'avoir vu la chemise dans des conditions anormales d'illumination. Et vous savez que dans des conditions anormales d'illumination, les expériences qu'on a des couleurs peuvent être perturbées. Donc Zineb pense qu'en fait son expérience n'est pas véridique, mais il se trouve qu'elle l'est. Dans un cas comme ça, on peut tout à fait dire qu'elle a vu, par exemple, que la chemise était verte. On peut dire ça. Ça n'implique pas qu'elle le croit, puisqu'encore une fois, dans cette situation, si elle doute du fait que les situations d'illumination sont normales, elle est susceptible de suspendre son jugement. Et donc de ne pas former la croyance correspondante. Donc on dirait dans cette situation que Zineb a vu que la chemise était verte, mais qu'elle n'a pas pour autant jugé qu'elle était verte, et donc qu'elle ne croit pas qu'elle soit verte. Donc vous voyez que, est-ce que la voir que P implique savoir que P? Pas nécessairement. Si vous considérez que savoir que P implique de croire que P, ce qui serait, par exemple, en tout cas mon cas, vous serez probablement conduit à douter du fait que voir que P implique savoir que P. Est-ce que de tout cela, on peut déduire que percevoir, c'est entretenir une attitude propositionnelle ? Eh bien, il semble que oui. Voir que P n'implique pas croire que P, mais cela semble impliquer d'entretenir une certaine attitude vis-à-vis d'un contenu propositionnel. Et à cet égard, le langage, il y a certaines constructions, en tout cas, qu'on utilise couramment pour décrire nos expériences perceptives, ressemblent beaucoup aux constructions qu'on utiliserait pour décrire la connaissance, pour décrire les croyances, pour décrire les intentions, donc ce qu'on appelle les attitudes propositionnelles. Alors, cela contredit-il pour autant la conception relationnelle ? Donc ça, c'est une première remarque que je voudrais faire, un peu originale peut-être. C'est un point qui est discuté en fait dans la littérature. J'ai l'impression que beaucoup d'auteurs pensent beaucoup d'auteurs pensent que si on admet que certaines des constructions qu'on utilise décrivent vraiment des attitudes propositionnelles qui ne sont pas des croyances, qui sont vraiment propres à l'expérience perceptive, qu'on ne peut pas réduire à des croyances, que ça constitue un argument contre l'approche relationnelle, et en tout cas, c'est en tension avec l'approche relationnelle. Alors, un exemple de tels auteurs, French, par exemple, Craig French, un philosophe de la perception, qui en 2013 a écrit un article sur cette question, et lui, du coup, essaye de montrer qu'en fait, on peut analyser, voir que P, en termes de croyances. Mais on vient de voir que c'était très difficile, en fait, parce qu'on vient de voir qu'il y avait des situations où on pouvait voir que P, sans pour autant croire que P, ni juger que P. Donc je ne suis pas tellement convaincu personnellement par cette manière de défendre en quelque sorte l'approche relationnelle. Mais moi je voudrais faire une remarque d'une certaine manière un petit peu plus basique. Simplement, d'un point de vue logique, il n'y a pas de contradiction entre reconnaître d'une part que la phénoménologie visuelle ne peut s'expliquer entièrement par des contenus représentationnels, donc rejeter l'intentionnalisme, cette approche très ambitieuse de la phénoménologie, donc qui constitue dans la littérature l'adversaire principal de l'approche relationnelle, et admettre par ailleurs que les expériences impliquent des attitudes propositionnelles. Les deux choses sont parfaitement cohérentes entre elles. On peut admettre les deux, il n'y a pas d'incompatibilité logique. Donc, j'ai l'impression parfois que dans la dialectique ou le débat philosophique, on a eu tendance à voir les choses de manière peut-être un petit peu simpliste et à se dire, bon, si on défend l'approche relationnelle, on doit rejeter l'intentionnalisme et donc on ne peut pas considérer que la perception soit une attitude propositionnelle. Alors, oui, si on veut, on ne peut pas réduire la perception à ça, vous voyez, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose d'admettre que la perception implique des relations avec l'environnement qui sont essentielles et de rejeter complètement que par ailleurs elle puisse faire intervenir des attitudes propositionnelles. Voilà, donc ça c'est un premier point. On peut soutenir qu'un état perceptif possède un contenu intentionnel. Ça n'implique pas que la phénoménologie consciente associée à cet état est entièrement constituée par ce contenu et qu'elle s'y réduit. Il est cohérent, en quelque sorte, de penser en même temps que les relations avec l'environnement sont nécessaires à l'occurrence d'une expérience dotée d'une phénoménologie et qu'une telle occurrence peut déboucher sur la formation d'une attitude distincte de la croyance. Alors, maintenant, je vais parler... Alors là, je vais être un petit peu rapide parce que je ne crois pas avoir énormément de choses très originales à dire sur ce sujet. Je vais parler rapidement, mais en même temps, ça me paraissait important d'en parler, des relations entre le langage de la perception et le vocabulaire de la perception et du cas des hallucinations. Alors, le cas des hallucinations, de toute façon, les illusions et les hallucinations, c'est les phénomènes perceptifs problématiques pour l'approche relationnelle, très clairement. Donc, typiquement, les défenseurs de l'approche relationnelle se concentrent là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire si on s'intéresse au langage ? Une question qu'on peut se poser, c'est de savoir s'il existe des usages de ces constructions relationnelles que j'ai présentées tout à l'heure. Zineb voit avec ensuite un complément nominal. Est-ce qu'il y a des constructions de ce type qui ne seraient pas factives, qui n'impliqueraient pas l'existence réelle des entités vues dans l'environnement ? Certains philosophes au XXe siècle et même au XXIe siècle ont soutenu que c'était le cas. Au XXe siècle, par exemple, ailleurs. Au XXIe siècle, moi, le philosophe que je vais citer, c'est Paul Bourget. Dans un article de 2017, Bourget suggère que, dans un contexte d'hallucination, qu'on peut dire que Zineb voit un éléphant rose devant elle si elle est victime d'une hallucination. On peut dire qu'elle voit un éléphant rose marcher devant elle ou qu'elle voit qu'un éléphant rose marche devant elle, mais que dans ces contextes d'hallucination, ces constructions ne sont pas factives, qu'elles n'impliquent pas l'existence d'un éléphant rose. Alors je suis d'accord avec la description des usages, je suis d'accord avec le fait, enfin je pense que d'ailleurs ça c'est un fait linguistique, on peut effectivement trouver des utilisations du vocabulaire de la perception pour décrire des hallucinations. Ça c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que pour autant c'est un problème, est-ce que ça réfute ou est-ce que ça suggérerait qu'au fond il y a certains usages du vocabulaire de la perception qui ne seraient pas explicables dans le cadre de l'approche relationnelle? Alors en fait, tout dépend de la manière dont on interprète les données. Les philosophes qui rejettent l'approche relationnelle souvent pensent que oui, que c'était le cas de Heyer, c'est le cas de Bourget au XXIe siècle, qu'au moins dans certains contextes, les usages des verbes de perception ont un sens littéral intentionnel, que ces usages ne décrivent pas des relations de perception consciente avec l'environnement et avec les entités qui existent vraiment dans l'environnement, mais plutôt des relations avec des entités différentes, des entités intentionnelles, peut-être des concepts, peut-être des contenus. Bon, en tout cas, le point important, ce n'est pas tellement quelle est la nature de ces entités intentionnelles. La chose importante, c'est que ce n'est pas des objets qui sont présents dans l'environnement. Alors, ce qui est important de voir, c'est que, en fait, depuis les travaux d'Austin, il y a une réponse à cette objection, disons. Alors, une réponse qui a été défendue par Austin, mais par d'autres philosophes aussi, Dretzky, Barwise et Perry, qui est que les verbes, qui est ce que j'appellerais l'analyse extensionnelle de ces situations, qui consiste à considérer que, en fait, le sens littéral des verbes de perception décrit toujours des relations avec l'environnement, et donc implique toujours l'existence des objets qui sont perçus, mais que dans certaines situations, par exemple dans les situations d'hallucination, peut-être dans certaines situations d'illusion, ces verbes sont utilisés d'une manière non littérale. Donc l'idée ici, c'est que oui, ces usages existent, on peut dire Zineb voit un éléphant rose devant elle pour décrire une hallucination, mais qu'on utilise dans ce cas-là le verbe d'une manière qui n'est pas littérale, d'une manière qui est, disons, un usage étendu, loose, on dit en anglais, pas au sens littéral en tout cas. Je disais tout à l'heure que je n'avais pas d'apport très original dans la discussion, parce que je pense personnellement que ces philosophes ont raison, en fait, Austin, Dretzky, Barwise et Perry, qu'ils ont raison. Je voudrais faire une remarque simplement sur les arguments, mais très vite. Je pense que je vais, en fait, d'ailleurs, même peut-être sauter une chose, parce que ce n'est pas essentiel. Sur les arguments qu'emploie David Bourget, parce que c'est un des philosophes, disons, qui a écrit le plus récemment sur cette question, à l'appui de l'analyse intentionnelle, Bourget utilise plusieurs arguments, mais notamment le fait que, d'après lui, dans ces contextes d'hallucination, les rapports de perception ne peuvent pas être critiqués ou blâmés. L'idée ici, c'est que lorsqu'on emploie des mots d'une manière non littérale, on peut critiquer le caractère non littéral de cet emploi, au moins dans certaines situations. Alors, moi, tout ce que je voudrais faire remarquer, c'est que la thèse de Bourget paraît pas si claire, cet argument n'est pas, me semble-t-il, si convaincant que ça, parce qu'il me semble qu'il y a bien des situations, en fait, dans lesquelles on peut blâmer ce genre d'utilisation. Alors, par exemple, peut-être dans un contexte juridique. Dans des situations où il est important d'employer les mots de manière littérale, on est d'accord que dans un contexte juridique, il vaut mieux éviter des métaphores ou des usages impropres. Il faut essayer de s'exprimer le plus littéralement possible. Si on dit, par exemple, que Zineb a vu l'assassin dans un tel contexte, si ce qu'on veut dire, c'est qu'elle l'a vu dans une hallucination, qu'elle a eu une hallucination d'un assassin, il me semble qu'on peut effectivement critiquer cet usage. Et qu'on peut préciser qu'elle ne l'a pas réellement vu, qu'elle l'a vu simplement dans le cadre d'une hallucination. Il y a d'autres arguments, mais je vois que le temps passe. Et donc je vais les passer. Donc ce qu'il faut retenir, je ne pense pas que ce débat soit tranché, hein, parce que voilà, il faudrait regarder. Mais simplement, en tout cas, les arguments qui ont été avancés le plus récemment sont pas des arguments déterminants, en tout cas. Hein. Ce que je dirais, de toute façon, c'est des inférences à la meilleure explication. Donc il y a des choses qu'on peut constater. Bourget pense que la meilleure explication des usages dans ces contextes d'hallucination, c'est de considérer qu'il y a un sens littéral qui est intentionnel. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec lui, et il y a beaucoup d'autres philosophes qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc je pense que de toute façon, c'est un débat qui est un petit peu difficile à trancher. Mais en tout cas, il n'y a pas d'incompatibilité entre ces usages et la thèse relationnelle. Ça, c'est quelque chose qui est clair, je pense. Alors la dernière chose dont je voudrais parler, c'est le cas des illusions. Et je pense que le cas des illusions est particulièrement important parce que c'est un cas dans lequel on distingue, dans notre vocabulaire, hein, lorsqu'on décrit ces situations, la réalité des apparences. Donc il y a ce qu'on appelle parfois en philosophie le vocabulaire des apparences. Alors en anglais, lorsqu'on parle d'apparence visuelle, on emploiera le verbe « look », l'expression « look ». En français, c'est un petit peu plus difficile. Bon, vous allez voir comment je le traduis, mais... D'abord, une remarque générale sur la manière dont l'approche relationnelle peut traiter des illusions. Donc, je vais me concentrer sur le cas des illusions visuelles. Hein. Et selon l'approche relationnelle, la propriété réelle de l'objet perçu détermine la qualité de l'expérience. Néanmoins, cette qualité peut être reconnue incorrectement par le sujet. Pourquoi ? Parce qu'elle peut apparaître d'une manière trompeuse. L'idée de l'approche relationnelle, c'est que même dans le cas d'une perception véridique, certaines des propriétés des choses, en raison d'un certain nombre de caractéristiques de la situation de perception, peuvent apparaître de manière trompeuse. Et que lorsqu'elles apparaissent de manière trompeuse, eh bien, nous pouvons être victimes d'une illusion. Ça n'empêche pas que ce qui constitue la phénoménologie, la qualité de l'expérience, c'est la qualité qui est réellement présente, encore une fois, même si le sujet se trompe sur la nature de cette qualité. Alors, encore une fois, c'est une thématique qui est vraiment importante lorsqu'on s'intéresse à l'approche relationnelle, l'idée que l'introspection a des limites, qu'on peut se tromper sur certains aspects, y compris la phénoménologie de nos expériences. Donc ça, c'est évidemment quelque chose avec quoi on peut être en désaccord, mais qui est en même temps une idée très, très intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet à propos du vocabulaire des apparences ? Certains philosophes récemment, donc je vais mentionner notamment un livre récent de 2018 de Berit Brogard, qui a écrit tout un livre hein, sur le vocabulaire des apparences et notamment le verbe « to look ». Alors, Berit Brogard soutient, elle essaie de développer un argument qui part donc des usages linguistiques et qu'elle oppose à l'approche relationnelle. Alors, c'est un argument qui est assez complexe et qui n'est pas supposé être un argument décisif hein, non plus. Mais l'idée, c'est que pour comprendre le verbe, l'idée, c'est que la meilleure explication des usages que je vais présenter hein, tout de suite, de ces expressions d'apparence, c'est une expression représentationnaliste. L'idée, c'est que lorsqu'on parle d'apparence, on parle toujours finalement de représentation mentale. Lorsqu'on parle de la manière dont les choses nous apparaissent, on parle de la manière dont on se représente les choses fondamentalement. Hein. C'est une idée qui est assez ancienne, hein, encore une fois, qui remonte probablement au XVIIe siècle. Donc, selon elle, le vocabulaire des apparences visuelles décrit les propriétés phénoménales représentationnelles de l'expérience. Et l'on peut déduire du coup de l'étude de ce vocabulaire que l'expérience visuelle est représentationnelle, fondamentalement représentationnelle. Alors, est-ce que ça exclut qu'elle soit relationnelle ? Dans son esprit, ça semble être le cas. Bon, cet argument, j'ai expliqué dans l'introduction de cette présentation, qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre l'approche relationnelle et la reconnaissance du rôle que pouvaient jouer les représentations mentales dans la perception. Et d'ailleurs, c'est un point que Brogaard elle-même semble reconnaître, hein, elle semble en être tout à fait consciente de ce point, puisqu'elle avance un argument supplémentaire qui est de dire qu'il est nécessaire de faire référence aux apparences visuelles représentationnelles pour expliquer la phénoménologie visuelle. Donc l'idée, c'est que ce n'est pas simplement que le vocabulaire des apparences devrait nous obliger à reconnaître qu'il y a quelque chose de fondamentalement représentationnel dans la perception, mais que la phénoménologie dépend... qu'il est nécessaire de faire référence à cette dimension représentationnelle pour réellement comprendre ce qu'est la phénoménologie. Que c'est en fait quelque chose qui est fondamental. Alors, je pense que c'est vraiment important dans le débat sur la conscience phénoménale, parce que, si réellement... il y a une partie de la signification du vocabulaire de l'expérience perceptive qu'on ne peut pas expliquer uniquement dans le cadre relationnel, dans un cadre relationnel. Si réellement c'est le cas, ça pourrait suggérer que notre psychologie naïve, d'une certaine manière, de la conscience, n'est pas relationnelle. Qu'on est tout à fait, y compris dans le cadre de cette psychologie naïve, qu'on est prêt ou qu'on est disposé, en tout cas, à considérer que la phénoménologie dépend de représentations mentales. Ce n'est pas simplement une thèse philosophique. Alors, ce débat, en fait, est très ancien dans la philosophie du langage et de l'esprit. Il remonte aux années 50 à un livre de Chisholm sur la perception de 1957, dans lequel Chisholm, donc déjà, analyse le vocabulaire des apparences et notamment le verbe. Alors, to look pi, avoir. Alors, la façon dont je le traduirais en français, c'est avoir l'air p, avoir l'air. Je pense pas que ce soit très facile à traduire littéralement. On pourrait dire sembler, mais le problème, c'est que si on emploie l'expression sembler, on perd l'idée qu'il s'agit d'apparence visuelle. Alors que il me semble que l'expression « avoir l'air » traduit cette idée d'apparence visuelle. Alors, donc, Chisholm, dans ce livre, distingue entre trois usages possibles du verbe « to look », non, l'expression « to look pi », ce qu'il appelle le sens épistémique, ce qu'il appelle le sens comparatif et ce qu'il appelle le sens non comparatif. Et vous allez voir que on va retrouver cette question de savoir si, au travers de cette discussion, s'il y a un sens, en quelque sorte, le sens non comparatif, qui serait non relationnel. Donc, supposez que je dise que le coupable a l'air de grande taille. Lorsqu'on dit ça, on peut tout simplement vouloir dire qu'on a une preuve, même pas nécessairement visuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement une expérience visuelle. Vous pouvez utiliser cette expression tout simplement pour indiquer que vous avez des données probantes. Des données probantes que la proposition « le coupable a l'air de grande taille » est vraie. Et ces expressions, donc « sembler »,« avoir l'air »,« to look » en anglais, peuvent être utilisées de cette manière-là. Alors que ce soit de manière métaphorique ou pas, on s'en fiche un petit peu, mais en tout cas, il y a des utilisations de ce type. Et donc, depuis Chisholm, on appelle ces utilisations des usages épistémiques. Pour indiquer, encore une fois, alors parfois on dit épistémique, parfois évidentiel, l'idée qu'on a des données probantes à l'appui de la proposition. Mais en même temps, il y a des usages également qui ne sont clairement pas épistémiques. Donc si vous regardez cette illusion visuelle, très très spectaculaire, il y a des spirales qui apparaissent roses et des spirales qui apparaissent oranges. En fait, ce sont les mêmes couleurs. Les couleurs sont les mêmes. Donc ici, on est d'accord qu'on peut dire, sur cette image, une spirale a l'air rose, tandis qu'une autre a l'air orange. Et on peut dire ça même si on sait qu'elles ne sont pas de la même couleur. Donc bien évidemment que lorsqu'on dit ça, on ne prétend pas qu'on a des données probantes à l'appui de la thèse qu'elles sont de la même couleur, puisqu'on considère que cette thèse est fausse en fait. Et pourtant on emploie l'expression, et on pourrait employer « to look » en anglais également. Hein. Donc dans cette lecture, vous voyez que le locuteur ne prétend pas posséder une preuve, une évidence, une donnée probante, mais simplement, donc en fait... Alors, pour ce qui concerne la phénoménologie, ce sont ces usages-là qui sont les plus importants. Ce sont des usages où, semble-t-il, on emploie ces expressions vraiment pour décrire une expérience. Mais attention, ici on pourrait avoir l'impression que justement, ce n'est pas une expérience véridique, puisque ce qu'on décrit, ce sont des apparences. Il y a encore une fois, des propriétés qui sont réellement instanciées sur cette image, les couleurs sont les mêmes. Il n'y a pas de différence dans les couleurs des spirales. C'est une illusion très spectaculaire, mais néanmoins une illusion. Alors, je m'étais dit qu'en arrivant à la fin de cet exposé, il fallait quand même faire quelques blagues. Alors, ces usages... Maintenant... Ces usages qui ne sont pas épistémiques, mais qui semblent relever vraiment des apparences, Chisholm considère qu'ils peuvent être aussi comparatifs ou non comparatifs. Donc il faut que j'explique ça. Qu'est-ce que c'est que les usages comparatifs? D'abord, il y a des cas où on emploie ce vocabulaire qui permet de décrire les apparences de manière explicitement comparative. Donc en anglais, on dirait que Richard Gere looks like François Béraud. Alors vous savez qu'en fait, c'est vraiment une thèse défendue par François Bayrou, pas par Richard Gere, hein, en fait. C'est quelque chose qu'il a énoncé en 2016, cette ressemblance. Alors, on peut être convaincu ou pas, là, il y a probablement une vague ressemblance, je ne sais pas. Et en français, on pourrait dire Richard Gere ressemble à François Bayrou. Alors, j'ai mis un petit V pour indiquer qu'il ressemble visuellement. En français, on pourrait dire il a un peu la même tête, il a un peu la même... Le même, voilà, on dirait ça, il a la même apparence physique, le même air, la même apparence physique que François Bayrou. Et vous voyez qu'ici, la manière la plus simple d'analyser ces énoncés, c'est en termes comparatifs. Donc là, j'ai mis une formule logique, mais c'est pas très... L'idée, c'est qu'il y a quelque chose, il y a deux choses, le look de Richard Gere, le look de François Bayrou. Donc, alors j'ai mis que le premier était possédé par M. Gere, le deuxième par M. Bayrou, et puis il y a une ressemblance entre ces deux looks, ces deux apparences. Alors moi, je serais assez favorable, du point de vue de la philosophie de la conscience et de la philosophie de la perception, de prendre ce genre, d'interpréter ce genre d'énoncé vraiment assez littéralement, et de dire, mais c'est vraiment, voilà, quand on parle de ça, on parle vraiment des apparences comme de propriétés des entités qu'on peut percevoir, et on exprime une ressemblance ici entre ces apparences. Alors là, il n'y a pas de débat sur le fait qu'il s'agisse d'un usage comparatif, il y a explicitement une comparaison. Mais certains usages de ce vocabulaire sont souvent interprétés comme étant implicitement comparatifs. Par exemple, si je dis que Notre-Dame a l'air gothique, qu'elle a une apparence gothique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire probablement que la manière la plus simple d'expliquer le sens de cet énoncé, c'est que Notre-Dame a une certaine apparence, qu'elle a un certain look, une certaine apparence visuelle, qui ressemble à l'apparence d'un certain nombre de bâtiments qu'on considère comme typiquement gothiques. Et qu'à cet égard, on peut dire qu'elle a l'air gothique, qu'elle a une apparence gothique. Par ailleurs, une chose qu'on peut dire aussi, c'est que ces usages... Ça aussi, je pense que c'est relativement bien accepté dans la littérature, hein, qu'il y a des usages implicitement comparatifs, que l'analyse que je viens de vous donner était probablement la plus plausible, du sens de l'énoncé. Une chose par ailleurs que je voudrais souligner sur ces usages, c'est qu'il y a une dépendance contextuelle, parce que ces apparences dépendent de certaines caractéristiques de la situation de perception. Par exemple, Notre-Dame, si on la regarde d'avion, on peut dire qu'elle est petite, qu'elle a l'air petite. Ce que j'essaye de manifester par cette photo. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire ? Ici, en l'occurrence, elle a la même apparence vue d'avion qu'ont les choses petites lorsqu'elles ne sont pas vues d'avion, par contre. Alors, comment est-ce qu'on peut analyser ce concept comparatif d'apparence visuelle ? Je voudrais proposer une analyse qui est compatible avec l'approche relationnelle de la perception, que j'appellerais une analyse dispositionnelle des apparences, qui me semble l'analyse la plus simple, en fait, hein, l'analyse qui semble la plus proche des usages naïfs qu'on fait de ce vocabulaire, qui est l'idée que X a une apparence visuelle, P, relativement à certains contextes, hein, parce que j'ai dit que c'était dépendant du contexte, c'est seulement si l'objet X était disposé à produire certaines expériences visuelles. Quelles expériences visuelles, donc relativement à ce contexte ? Des expériences visuelles qui ressemblent aux expériences visuelles qui sont produites par les objets qui ont la propriété P. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'il s'agit d'une analyse comparative de cette notion d'apparence. Alors, ce qui est important, c'est que ici, évidemment, on peut utiliser le concept relationnel d'expérience consciente pour expliquer cette notion d'apparence. X a l'apparence P dans un certain contexte, si et seulement si, voir X dans ce contexte ressemble de manière pertinente à voir un objet qui a cette propriété P. Et là, vous voyez que pour expliquer ce concept d'apparence, je ne fais rien d'autre qu'utiliser le concept relationnel d'expérience. Alors, ça me paraît important parce que ça suggère, un problème quand même pour un argument du type de celui de Brogard. L'argument de Brogard, c'est un argument qui consiste à dire en gros, pour comprendre la phénoménologie, il faut comprendre ce que notre vocabulaire des apparences, ce que sont les apparences, mais pour comprendre ce que sont les apparences, on a absolument besoin de faire référence au concept de représentation mentale. À mon avis, non. Je ne pense pas que tout un chacun, lorsqu'il comprend le vocabulaire des apparences, comprenne et ait besoin de comprendre ce qu'est une représentation mentale. Je pense que ce que tout un chacun a besoin de comprendre, c'est ce que c'est qu'une expérience perceptive consciente, véridique, hein, et les relations de ressemblance entre ces expériences. Alors, bien évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas quand même des usages de ce vocabulaire des apparences qui ne seraient pas comparatifs ? Et je conclurai d'ailleurs ma présentation sur ce point. Bon, alors l'argument de la régression, du coup, je vais le sauter. Donc, est-ce qu'il y a un sens non comparatif qui serait purement phénoménal du vocabulaire des apparences et notamment du verbe « to look » ? Beaucoup d'auteurs l'ont suggéré, en fait, hein, dans l'histoire de la philosophie à la fois du XXe siècle et du XXIe siècle, donc dans la littérature récente. Chisholm lui-même, en fait, introduit un troisième sens, un sens non comparatif des expressions d'apparence visuelle comme « appear » ou « look ». Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il me semble que c'est sur la base d'une certaine position philosophique sur l'expérience consciente. Alors, bien évidemment que si on adhère à une certaine conception philosophique, par exemple une conception intentionnaliste, il est probablement, dans le cadre de cette vision philosophique, possible de donner un sens non comparatif à une expression comme « to look », un sens que moi j'appellerais technique. Parce que, vous voyez, la différence entre un sens, disons, naïf, habituel, et un sens technique, c'est que le sens technique dépend d'une théorie. Ce dont je voudrais vous convaincre, c'est que ce sens non comparatif, effectivement, est technique. Donc, je ne nie pas du tout qu'on puisse utiliser ces expressions dans un sens non comparatif. Mais encore une fois, dans le cadre de certains usages philosophiques, ce sur quoi je suis beaucoup plus sceptique, c'est l'idée d'après laquelle ces usages appartiendraient réellement à notre idiome habituel. Donc, pourquoi est-ce que Chisholm pensait qu'il existait un sens non comparatif ? Alors là, les arguments, de nouveau, vont redevenir un petit peu subtils. Hein, c'est la philosophie analytique. Parce que lui pense que... D'abord, ce qu'il dit, c'est qu'un énoncé comme 24 est analytique dans une lecture non comparative. Ou c'est l'inverse. excusez-moi. Je crois que j'ai fait une bêtise dans mes... Et analytique, excusez-moi, j'ai une erreur sur la diapo. Et analytique, voilà. Excusez-moi. Donc, selon Chisholm, un énoncé comme 24, les choses qui sont rouges paraissent rouges à la lumière du jour. Alors, lui considère que cet énoncé est analytique dans une lecture comparative. Alors, on a vu tout à l'heure, François a expliqué ce que c'était qu'une implication analytique d'un certain énoncé. Est-ce que c'est évident que les choses qui sont rouges paraissent rouges dans certains contextes? Moi, ça me paraît assez évident dans le cadre, disons, d'une approche naïve de la perception. Ça paraissait pas évident à Chisholm. Chisholm considérait que l'énoncé était synthétique. Pourquoi est-ce qu'il considérait que l'énoncé était synthétique? Alors, là, il faut que maintenant, imaginons que l'approche relationnelle soit fausse. Imaginons qu'elle soit fausse. Imaginons que la bonne approche de la perception, ce soit plutôt une approche intentionnelle, dans laquelle il n'est pas nécessaire qu'il y ait réellement des objets devant nous ayant des propriétés qualitatives, des couleurs, des formes, etc., pour que notre expérience ait une phénoménologie. Imaginons que ces relations avec l'environnement ne soient pas nécessaires à la phénoménologie. Si c'est le cas, on peut très certainement imaginer des situations dans lesquelles il pourrait y avoir des apparences de rouge sans que la couleur rouge existe. D'accord ? On pourrait, peut-être même qu'on pourrait, dans un tel cadre, si vous pensez que les apparences de rouge ne sont rien d'autre que des représentations mentales, en fait, que des choses qui dépendent de votre esprit et pas des objets qui sont présents dans l'environnement, on peut dans ce cas-là considérer que l'énoncé, les choses qui sont rouges paraissent rouges à la lumière du jour, est synthétique. Donc c'était la position de Chisholm. Moi, je voudrais vraiment insister sur le fait que, en ce sens non comparatif, quelque chose peut avoir l'air rouge, même s'il n'y a rien de rouge dans l'univers. C'est un point que Chisholm souligne lui-même dès 1957. Il écrit « Si je ne sais pas si la pomme que je regarde est rouge, et même si pour quelque étrange raison je ne sais pas si quoi que ce soit est rouge, je peux être tout à fait certain, ou bien que quelque chose m'a l'air rouge, ou que ce n'est pas le cas de quoi que ce soit. Encore une fois, oui, bien sûr, si on commence par présupposer une approche cartésienne, par exemple, des sensations, des perceptions, une approche dans laquelle, fondamentalement, l'expérience qu'on a dans une hallucination, dans un rêve, comme dit Descartes, un rêve hyperréaliste, dans un cadre véridique, si on considère que ces expériences sont fondamentalement les mêmes, eh bien, on pourrait tout à fait imaginer que... Et si par ailleurs on considère que les apparences dépendent fondamentalement de ces expériences conscientes, qu'au fond, les apparences, on pourrait dire, sont subjectives, ne sont pas, comme je l'ai suggéré moi tout à l'heure dans ma présentation, que les apparences ne sont pas des propriétés des choses réelles, mais plutôt des propriétés de nos expériences des choses. Expériences... et devant être comprises ici vraiment comme des états internes. Donc si on considère ça, oui, ce que dit Chisholm ici, évidemment, est tout à fait concevable. La question fondamentale, évidemment, par rapport à notre débat, c'est est-ce que ça, c'est quelque chose qui découle d'une certaine théorie philosophique, ou est-ce que ça découle de nos usages habituels de ce vocabulaire ? Cette affirmation de Chisholm a ensuite servi de point de départ à plusieurs arguments, avancés notamment par Jackson en 1977, dans un livre également assez célèbre sur la perception, en faveur de ce que Jackson appelait le sens phénoménal de look. Et donc la thèse de Jackson, c'est qu'il y a un sens phénoménal non comparatif de look. Alors, si vous avez suivi les discussions, j'espère, c'est un peu subtil ces exemples, mais moi je suis pas d'accord, avec avec cette idée. Donc je pense qu'en fait les arguments de Jackson, alors Jackson donne certains arguments, je vais quand même vous en parler un petit peu pour conclure cette présentation, parce que je pense que c'est les arguments aujourd'hui les plus influents encore dans la littérature, ils sont encore très souvent cités. Alors peut-être le plus souvent cité, c'est cet argument du malin génie. Donc ce sont des arguments qui reposent tous sur l'idée qu'on peut parler d'une apparence P, y compris à propos d'un monde possible dans lequel rien n'a la propriété P, et donc dans lequel P ne peut pas être vu. Considérons, dit Jackson, un monde créé par un malin génie cartésien, détestant les choses rouges, mais tolérant le fait que certaines choses non rouges aient l'air rouge. Bon. Peut-être a-t-il décidé de détruire le monde si une chose rouge venait à exister. Mais dans ce monde, certaines choses ont parfois l'air rouge, même si rien n'a l'apparence qu'aurait une chose rouge s'il en existait. Puisque s'il en existait, rien n'aurait plus d'apparence. Bon. Ok. Alors, Alors, c'est un argument qui est, comme je le disais, subtil, mais en même temps, qui pourrait avoir l'air très convaincant. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'expliquer ces intuitions dans le cadre d'une approche comparative ? Je vais essayer de vous convaincre que oui. Est-ce que nous pouvons utiliser un concept comparatif à voir l'air rouge pour décrire cette situation ? Bon. Donc, si nous utilisons notre concept comparatif à voir l'air rouge, ce concept dépend de l'existence d'épisodes de vision de la couleur rouge. Mais notez qu'on peut tout à fait décrire ce concept pour décrire un monde possible où le rouge n'existe pas. Ça ne me paraît pas particulièrement problématique, en fait. De même que nous pouvons, par exemple, décrire un monde où une personne ressemblant à Frank Jackson existe, sans que Frank Jackson n'existe dans ce monde. Par contre, évidemment, le concept qu'on emploie pour décrire le monde en question, personne qui ressemble à Frank Jackson, ce n'est pas un concept qu'on aurait pu former si Frank Jackson n'existait pas réellement dans notre monde réel. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai un petit peu de mal personnellement à trouver l'argument de Jackson convaincant. Peut-être que ce qu'il suggère, c'est que dans la situation contrefactuelle qu'il décrit, il est évident qu'on peut former un concept à avoir l'air rouge, quoique la couleur rouge ne soit instanciée par rien dans ce monde possible. Mais ça, ce n'est pas, me semble-t-il, évident du tout. C'est évident si on accepte une certaine conception qui est une conception non relationnelle de l'expérience. Mais évidemment, si on accepte cette conception non relationnelle de l'expérience, on commet une pétition de principe. En tout cas, dans la discussion que je suis en train de mener, puisque c'est une discussion dans laquelle la question, c'est de savoir s'il existe réellement des usages non comparatifs du vocabulaire des apparences, mais, je veux dire, qu'il soit indépendant de toute théorie philosophique, hein, puisque, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est notre concept naïf d'expérience. Rien d'autre que ça. Donc, il me semble que Jackson commet ici une pétition de principe. Je ne vais pas présenter son deuxième argument, mais je vais directement en arriver à ma conclusion. Donc, les arguments avancés en faveur de l'existence d'un sens non comparatif ou phénoménal du vocabulaire des apparences ne me semblent pas convaincants. Il me semble que nos usages linguistiques sont compatibles avec la thèse selon laquelle nous concevons les apparences comme des propriétés objectives, mais de manière comparative et relationnelle. Et donc, dans ce cadre, l'argument de quelqu'un comme Brogard s'effondre, puisqu'on voit que ce qui est le plus fondamental, c'est le vocabulaire de la perception véridique, et qu'on a besoin de comprendre ce vocabulaire de la perception véridique pour comprendre ce que sont les apparences. Donc, ce qui est le plus fondamental, c'est la perception véridique, d'après cette idée. Et les apparences sont toujours, en fait, conçues de manière comparative. Une dernière question que je voudrais quand même poser dans cet exposé, parce que je pense que c'est une question qu'on se pose très souvent lorsqu'on réfléchit à l'approche comparative, c'est la question de savoir si on ne doit pas prendre en considération, lorsqu'on s'interroge sur ce qui constitue la phénoménologie, non seulement les objets réels qui sont perçus, ainsi que leurs propriétés intrinsèques, peut-être même leurs autres propriétés, c'est la thèse relationnelle, mais peut-être également justement ces manières dont les objets nous apparaissent, les façons dont les objets et ces propriétés apparaissent. Bon, alors je vais encore... Ici, vous voyez que lorsqu'on enlève les lunettes, on voit Richard Gir, et lorsqu'on les remet, on voit François Béraud. C'est très troublant. Doit-on considérer ici que François Béroux et toutes ses propriétés perceptibles déterminent entièrement la phénoménologie visuelle qu'il illustrait ? Ou faut-il tenir compte de la façon dont cette situation visuelle apparaît au sujet lorsqu'il enlève ou qu'il remet ses lunettes ? Parce que les propriétés sont les mêmes, les objets sont les mêmes. Du point de vue de l'approche relationnelle, la phénoménologie, en un certain sens, est la même. Et puis, en un autre sens, on peut dire quand même que les apparences sont différentes. Puisque dans un certain cas, François Béroux ressemble à Richard Gir. Et puis quand on remet les lunettes, peut-être beaucoup moins, en fait. Donc, je pense que oui, en fait, il faut tenir compte de ces façons de percevoir les objets et leurs propriétés. En fait, beaucoup des auteurs qui défendent l'approche relationnelle aujourd'hui acceptent d'une certaine manière, de la modérer un petit peu, si vous voulez. C'est même le cas de Campbell. Hein. Campbell, Brewer, Calderon, Fish, Giannone, French, Phillips, tous ces auteurs, en fait, qui tous défendent l'approche relationnelle, l'admettent, cette idée. Donc, Pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut concilier l'approche relationnelle, la thèse selon laquelle les qualités d'une expérience dépendent uniquement de la thèse perçue, avec la thèse selon laquelle ces qualités peuvent être présentées de manière différente au sujet percevant, par des apparences qui peuvent être différentes dans différentes situations. Mais ça ne remet pas, à mon avis, en question l'approche relationnelle, puisque l'approche comparative du vocabulaire des, du vocabulaire des apparences que j'ai défendu, nous concevons ces manières de percevoir à partir des ressemblances entre des expériences véridiques. Et donc, à cet égard, la notion fondamentale est bien cette notion relationnelle d'expérience véridique. J'ai un petit peu débordé, je vous prie de m'en excuser et je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.